Vous écoutez France Culture.
Place des Peuples, Madeleine Mukamabano.
Bonjour à tous. Au Japon, la crise économique remonte au début des années 90, au moment de l'éclatement de la bulle financière en Asie, mais c'est depuis une dizaine d'années que son impact sur la vie économique et sociale est devenu visible, avec la paupérisation de certaines catégories de la population, la première apparition des sans-domicile fixe, le chômage, la précarité et les inégalités croissantes, le tout sur fond d'un déclin démographique annoncé et d'une concurrence chinoise de plus en plus agressive. Résultat, certains Japonais commencent à douter de la pertinence de leur modèle social et en appellent au retour aux valeurs ancestrales contre le matérialisme occidental. Les conséquences sociales de la crise au Japon, on en parle avec Jean-François Sabouret. Il est directeur de recherche au CNRS, auteur de plusieurs publications sur le Japon, dont « Besoin de Japon », c'est aux éditions du Seuil. C'est un regard sur la société japonaise nourrie de 22 ans d'expérience sur le terrain. Et Claude Meyer, professeur d'économie internationale à Sciences Po, ancien directeur de banque au Japon. Il vient de publier aux presses de Sciences Po « Chine ou Japon, qui est le leader pour l'Asie ?» Au mois de mars, le magazine américain Newsweek titrait « Toyota ou le déclin du Japon ». Alors ce mot « déclin », ce terme « déclin », on le voit sous la plume des journalistes japonais eux-mêmes, même des essayistes. En même temps, on se dit que le Japon, c'est quand même la deuxième puissance économique mondiale. Pourquoi ce spectre du déclin, Claude Meyer ?
Écoutez, on a là, à mon avis, un effet d'optique inversé. Dans les années 80, le Japon allait conquérir le monde. Le Japon était au fait de sa puissance. Et maintenant, on a une inversion. La Chine, avec l'ouverture demain de l'exposition de Shanghai, la Chine qui va devenir sans doute la deuxième économie mondiale, éclipse le Japon. Et donc, comme dans toutes les illusions d'optique, il me semble qu'il faut corriger ces illusions. Le Japon reste une puissance industrielle et surtout technologique de premier plan. Et c'est une puissance qui, sur le plan régional, compte encore énormément et, d'une certaine façon, reste le leader économique de l'Asie.
Jean-François Sabouret.
Oui, je corrobore ce que dit Claude Meyer. C'est-à-dire que le Japon était, dans les années 80, fin des années 70-80, c'était Japan as number one. Donc le Japon devait devenir la première puissance économique du monde. Cette économie s'est structurée, s'est renforcée, justement avec la délocalisation de marchandises à basse valeur ajoutée en Chine. Donc à la fois, en faisant cela, ils ont commencé à scier la branche sur laquelle ils étaient assis. Bien sûr, ils ont sorti des choses qui ont permis d'accroître un peu leur présence très forte dans l'économie mondiale. Il fut un temps quand même où le Japon représentait, je ne me souviens plus exactement, mais Claude pourra le corriger, 50 à 60% du PNB américain. Maintenant, on en est loin quand même. Mais ce qu'il y a, c'est que la Chine s'étant réveillée, pour reprendre l'expression du ministre bien connu, la Chine s'est éveillée et elle est éveillée pour longtemps. Il faut savoir que dans les années 1840, quand des forbans britanniques ont fait tomber l'empire du milieu, le PNB chinois représentait 20 à 30% du PNB mondial. Et si on y ajoute l'Inde, bien sûr, comme le dit Claude Meyer, l'Inde qui est loin d'être dans le même sillage que la Chine, mais ces deux PNB ajoutés l'un à l'autre représentaient 40% du PNB mondial. Ces gens-là, maintenant, se relèvent et il se relève pour longtemps. Mais bien évidemment, des économies comme le Japon, mais comme les nôtres, l'économie allemande, etc., nous glissons. Le problème, c'est de savoir à quelle vitesse nous glissons et jusqu'où nous allons nous arrêter.
Et puis, la nature de ce glissement aussi, Claude Meyer, parce que comme je le rappelais un peu dans l'introduction, on a l'impression que les effets de cette crise ne sont pas seulement sociales, qu'elles deviennent carrément identitaires.
Tout à fait, tout à fait. Donc, après avoir rappelé quand même qu'il ne faut pas céder aux illusions d'optique, il faut faire face à la réalité. Le Japon a subi une crise exceptionnelle par sa longueur et par sa langueur, si je puis dire. Et au cours de cette crise, je dirais d'une certaine façon, le Japon qui reste une puissance économique majeure, le Japon n'a plus le moral. Le Japon n'est plus une puissance conquérante, celle qu'il était durant les années 80. Et si on fait le parallèle avec la Chine, je dirais que la Chine embrasse l'avenir, le Japon s'y achemine d'une certaine façon à reculons. La Chine désire, le Japon est quelque part désenchanté. La Chine entreprend et le Japon, d'une certaine façon, défend ses acquis. Et je crois que ce n'est pas une tentation de Venise, c'est une plus grande lucidité sur la position singulière du Japon en Asie et une grande incertitude sur sa place dans le monde. Alors, évidemment, cette crise...
On peut se dire, incertitude sur sa place dans le monde, peut-être ça, c'est du point de vue des intellectuels, du c'est point ça. De vue des politiques, mais les populations japonaises elles-mêmes...
Alors, voilà. Donc, on a eu effectivement, je dirais, des évolutions majeures du point de vue social, du point de vue des populations. C'est-à-dire qu'on est passé d'une société dite égalitaire, elle n'a jamais été vraiment, mais enfin, elle a été perçue comme telle par la majorité des Japonais, à des fractures sociales qui sont nées de cette crise jusqu'au début des années 2000, puis renforcées par les politiques néolibérales de Koizumi, avec donc des fractures sociales, d'inégalités de revenus. Il y a un coefficient qui mesure les inégalités de revenus. On est passé de 0,25 à 0,40 à peu près. Plus c'est élevé, plus les inégalités sont grandes. Pour comparer, la France est à 0,28 et les États-Unis à 45. Et on a une montée de la pauvreté, c'est-à-dire qu'un Japonais sur six est en dessous du seuil de pauvreté. Et une montée pour ceux qui travaillent, une montée du travail précaire, puisque maintenant, on a un tiers des travailleurs qui sont soit mi-temps, soit des journaliers, etc. Donc, on a eu une montée des inégalités, je dirais, sur trois points. Les inégalités de revenus, mais aussi inégalités accrues, et c'est un petit peu d'ailleurs comme en France, inégalité entre, par exemple, les jeunes sur leur perspective d'avenir suivant le diplôme.
Et puis, il paraît qu'il y a des jeunes qui ne veulent même plus acquérir des diplômes, qui sont complètement en rupture avec le système scolaire.
Absolument. Oui. Et alors, une montée des inégalités qu'on ne souligne pas assez, à mon avis, parce qu'on va la voir ultérieurement, c'est les inégalités entre générations. C'est-à-dire, bien sûr, il y a eu des réductions d'effectifs, des contractions, etc. Mais je dirais, les gens de 50-60 ans ont eu le meilleur de la croissance japonaise. Et donc, si on prend en compte le poids de la dette publique et les perspectives de retraite pour les jeunes, enfin de 25, 30, même 35 ans, elles sont extrêmement moroses.
Oui, Jean-François Sabouret, donc, une crise qui frappe et les vieux, mais peut-être un peu moins que les jeunes.
Mais les personnes âgées, c'est un peu le système à l'américaine, si on connaît le système japonais, ils touchent une somme d'argent très modeste, très modique chaque mois, et un pécule quand ils partent. Ce pécule servait à la période de la bonne croissance, je ne dirais pas de la haute croissance, mais de la bonne croissance, à reconstruire la maison quand on arrivait à l'orée du troisième âge. Vous savez qu'au Japon, on doit reconstruire les maisons tous les 20 ou 30 ans. Maintenant, cette somme d'argent fond très très rapidement. Quant au pécule qu'ils reçoivent chaque mois, il est très très modeste. Je connais des professeurs d'université qui cherchent du travail, non pas pour s'occuper, mais parce qu'il faut boucler les fins de mois. Donc c'est assez prenant. Un tiers de la population active qui n'est pas titulaire, et donc le grand terme japonais, c'est kakusa. Kakusa qui veut dire l'écart, la différence, les inégalités, et ça s'accroît de plus en plus. Et on voit des personnes âgées qui font toutes sortes de petits boulots, ramasser des papiers, être dans des gares, distribuer des journaux, etc. Tout en disant que, parce qu'on est, c'est le pays de la face, le Japon, tout en disant que c'est très très bien pour la santé et ça évite d'être assis avachi devant la télévision. Mais vraiment, la situation est grave. Mais elle est grave aussi pour les jeunes qui ont des... Il y a ceux qui ne veulent pas passer de diplôme parce qu'ils savent très bien qu'à 12 ans, 13 ans, les jeux sont faits et que ça ne sert à rien d'acquérir un diplôme puisqu'on sait que le taux de chômage pour ceux qui sont diplômés du collège et ceux qui sont diplômés du lycée, le taux de chômage est extrêmement, extrêmement élevé. Et que pour ceux qui sont diplômés de l'université...
Jean-François Sabouret, en même temps au lycée, c'est là que justement le Japon a perdu sa place première dans la recherche, par exemple, où c'était le deuxième pays après les États-Unis, auquel le Japon n'est plus compétitif dans les matières scientifiques, qui a aussi un déclin du système universitaire, du système de formation japonais.
Moi, je ne dirais pas cela. Pour les Japonais mettent toujours vraiment l'accent et des budgets très importants sur la recherche, mais peut-être ils vont cibler davantage. Et puis, il y a aussi les choix du gouvernement actuel de Hatoyama Yukio, qui veut économiser. Mais ça, c'est ces diminutions de budget sur la recherche publique ou d'autres emplois, d'ailleurs, tout liés au public. On connaît ça en France, ça s'appelle RGPP. Donc, en fait, on n'est pas très, très éloignés les uns des autres. Le problème, c'est que les Japonais sont à côté du volcan chinois. Ils les ont en face. Et ça, c'est un problème important.
Enfin, mais tout le monde a la Chine en face.
Oui, mais là, ils l'ont particulièrement en face, si j'ose dire. Vous savez, d'abord, les Chinois arrivent de plus en plus au Japon, alors que les Japonais veulent faire partir les soi-disant Japonais qui viennent du Brésil. Ils veulent les faire rentrer chez eux parce qu'il y a de moins en moins de travail. Néanmoins, il y a de plus en plus de personnes étrangères qui arrivent au Japon. Donc, qui sont ces gens qui arrivent des pays étrangers? Quelque part, pour les Chinois, le Japon est un pays qui fait rêver. C'est quand même un Eldorado. Claude Meyer a tout à fait raison de dire que la Chine a le vent en poupe. Mais quelle Chine? La Chine de Shanghai qu'on va fêter aujourd'hui, celle de Nankin ou de Pékin, la Chine du bord de mer. Mais la Chine du fond du pays Ouïghour, de Xinjiang, etc., tous ces gens-là sont dans une misère assez grande. Et moi, je vois qu'il y a, non pas, j'ai employé le terme de kakusa pour le Japon, différence, écart, mais là, c'est même plus kakusa. Ce sont des gens qui ont des modes de vie totalement différents, des modes de pensée différents.
Malgré tout, on vit mieux au Japon qu'en Chine.
Il y a une vraie classe moyenne au Japon, alors qu'en Chine, je ne sais pas si les Chinois vont durer comme cela, mais il y a des gens qui ont vraiment des problèmes graves de vie quotidienne en Chine. Vous savez que quand vous venez de la campagne en Chine, il vous faut une sorte de passeport pour séjourner dans les villes.
Au Japon, ça
n'existe pas. Oui. Ça n'a jamais existé. Le phénomène de Mingon, c'est-à-dire les travailleurs temporaires qui viennent travailler à la ville et construire les grandes villes chinoises, ça existait au Japon dans les années 60. C'était les Dekasegi. C'est donc ces paysans qui venaient l'hiver, j'allais dire les Auvergnats ou les maçons de la Creuse, hein, qui venaient construire la ville de Tokyo et puis qui repartaient pour planter le riz à la belle saison. Et puis peu à peu, ces gens-là se sont fixés dans les villes avec leurs familles et leurs enfants. Et puis ils ont constitué le terreau d'une classe moyenne importante. On en est loin pour la Chine. Donc pour l'instant... Oui. La Chine a le vent en poupe, il n'y a pas de problème. Mais oui. Dites-vous bien que tous les jours, les Chinois prennent 24 heures, ils vieillissent de 24 heures comme les autres, comme les Français, comme les Japonais.
Oui, alors on va revenir au Japon.
Revenir. Alors, très brièvement sur la Chine, oui. Parce non. que quand je dis la Chine embrasse l'avenir, mieux que quiconque étudiant à fond l'économie chinoise, et je le dis d'un mot, l'économie chinoise est une économie extrêmement dépendante de trois points de vue. Du point de vue technologique, 70% des technologies utilisées en Chine sont d'origine étrangère. Elle est dépendante des marchés étrangers américains et européens où on a vu les effets de la crise sur le commerce chinois. Et troisièmement, et ça va être un problème majeur, elle est dépendante des matières premières. Donc je reviens au Japon et sur ce point absolument capital que vous avez mentionné qui est celui de l'éducation et de la recherche. Donc vous avez parfaitement raison, il y a un problème d'éducation au Japon au niveau, je dirais, de ce que peut être, il y a des réformes en cours, de ce que peut être la créativité des étudiants à leur sortir de l'université, dans la mesure où on a quand même le respect du maître, c'est extrêmement difficile de poser des questions, on ne veut pas mettre le professeur mal à l'aise, etc. Donc c'est un enseignement très formaté et relativement conformiste. Donc là, ça se sent d'ailleurs, je dirais, au niveau de la recherche. Et la recherche japonaise est fondamentalement... Non, c'est un mauvais jeu de mots, parce que j'allais dire, elle est fondamentalement appliquée. Et donc, en recherche fondamentale, on a peu de prix Nobel japonais. Oui. En revanche, là, je ne dirais pas que le Japon est en déclin du point de vue technologique, bien au contraire. Le Japon a des dépenses de recherche et développement qui font 3,30% du PIB. Dans le CDE, on est à 2,50, quelque chose comme ça. Le Japon est le pays qui dépose le plus de brevets, mais de loin, en densité technologique, c'est-à-dire par nombre d'habitants. Il est à 150 contre en moyenne 50 pour les pays développés. développé. Et parmi les 10 premières entreprises situées aux États-Unis qui déposent des brevets, 5 sont japonaises, 2 sont coréennes et 3 américaines. Et sur ce qu'on appelle les brevets triadiques, c'est-à-dire déposés simultanément aux États-Unis, en Europe et au Japon, le Japon proportionnellement vient devant les États-Unis. Donc il y a un capital, et c'est d'ailleurs, je dirais, finalement le seul atout du Japon face à la Chine.
Oui, alors on va revenir au Japon et à la société japonaise elle-même. Oui. On a vu que les gouvernements qui sont succédés pratiquement depuis 2007 ont essayé, il y a eu des plans de relance sans que cela marche. Mais quelles sont les réactions, les comportements des populations japonaises qui ont vécu quand même dans une certaine opulence dans les années 80, qui étaient des grands consommateurs de luxe? Aujourd'hui, comment la population japonaise s'adapte-t-elle à cette crise, Jean-François Sabouré?
Ils apprennent à vivre autrement, si j'ose dire. J'étais sur un marché que connaît bien Claude Meyer il y a 2 mois à Tokyo, dans le quartier de Ueno, qui est un quartier assez populaire, et je voyais des sacs Vuitton bradés. Des vrais sacs Vuitton, pas de limitation. Parce que les jeunes japonais, ou dans 30 et moins, vendent déjà, ils ont besoin d'argent, ils vendent tous les objets de luxe et ils apprennent à vivre autrement. C'est-à-dire manger moins cher, s'habiller moins cher, fréquenter des magasins moins chers, etc., etc. Donc on apprend à vivre, à réduire le train de vie le plus possible. Cela dit, là, nous sommes actuellement dans ce qu'on appelle la Golden Week au Japon, c'est-à-dire la semaine dorée. Les Japonais, par 5 ou 6 jours, c'est les grandes vacances, si j'ose dire, des Japonais avant l'été. Et l'été, ils travaillent, les Japonais, mais là, ils passent 5 ou 6 jours. Or, qu'est-ce qu'on lit dans la presse? C'est qu'il y a de plus en plus de personnes qui prennent l'avion pour partir à l'étranger. Donc, bien sûr, ceux et les personnes âgées qui ne font qu'un repas par jour, les personnes âgées qui ne bougent pas de leur maison, qui ne peuvent pas la faire réparer, et les jeunes qui n'ont pas de boulot, c'est pas les mêmes que ceux qui prennent l'avion. Donc, on revient au terme de kakusa, d'écart, et donc, il y a des Japonais, des jeunes Japonais qui apprennent à vivre autrement. Par exemple, les travailleurs temporaires, les travailleurs, c'est-à-dire ceux qui travaillent sans filet, maintenant essaient de se regrouper et de faire de s'unir pour défendre leurs biens, sachant de toute façon
une forme de syndicalisme sauvage, entre guillemets, à côté du syndicalisme officiel.
Voilà, ils essaient de se regrouper et puis ils se contactent comme cela. Ça a été tout à fait bien décrit par Kamata Satoshi, qui lui connaît bien tous ces milieux-là. Mais il y a une misère qui est vraie. C'est vrai aussi, par exemple, qu'il y a de plus en plus de vols à l'étalage, de cambriolages, des vols à l'arraché. C'est drôle pour un pays comme le Japon. Par rapport à la France, ça peut dire que c'est anecdotique. Mais quand même, ce sont des choses qui se développent. Là, donc, il y a des problèmes. Mais encore une fois, le Japon, ce que disait Claude Meyer tout à l'heure, le Japon est la seconde puissance économique du monde. Et moi, je ne fais pas l'hypothèse que les Japonais et les Chinois sont en opposition. Je me dis, le jour où les Chinois et les Japonais vont s'entendre pour faire quelque chose, quoi? Dans le détail, on ne va pas en parler ce soir.
Oui, l'union fameux axe asiatique sur lequel
Taïwan, Corée du Sud, Chine et Japon, on aura encore davantage mal. De toute façon, il y a des choses souterraines qui se font, des transferts de technologies. Ce que veulent les Chinois, c'est des transferts de technologies à haute valeur ajoutée. Les Japonais sont réticents, et bien évidemment, cela dit, les Chinois, ça ne les tracasse pas. Ils font venir vraiment à grands frais des Chinois.
Parlons des Japonais, Jean-François Sabouré, parce qu'on parle beaucoup des systèmes chinois, systèmes japonais. On a fait beaucoup d'émissions qui comparent les deux. Mais j'aimerais bien qu'on revienne aux populations et leur adaptation
absolument
à cette nouvelle situation de pauvreté.
Donc je crois qu'il y a deux points à voir. C'est quels ont été les effets de cette crise et puis du tournant néolibéral sur les populations en termes de système de valeurs. Et deuxièmement, qu'est-ce que va apporter éventuellement ce nouveau gouvernement, y compris sur le plan économique? Alors, il me semble qu'on a parlé de la déclin, crise, etc.
Je remets en question du modèle social.
Voilà, exactement. Et dans cette remise en cause, comme toujours, c'est à la fois un déchirement, mais c'est aussi l'ouverture de l'avenir. Et d'une certaine façon, la société japonaise a bougé, elle s'est mise en mouvement, elle est beaucoup moins monolithique qu'elle ne l'était, les styles de vie et de consommation se diversifient.
Tout à fait.
Et c'est vrai que le modèle japonais, notamment l'appartenance à l'entreprise, etc., n'est plus du tout le modèle auquel s'identifient les jeunes. Et si on prend, par exemple, l'exemple des femmes, les femmes revendiquent une plus grande autonomie par rapport au statut d'épouse et de mère, elles ont des projets personnels, de création d'entreprise, etc. Et là, on a, je crois, de nouvelles valeurs qui sont apparues, des valeurs d'autonomie contre le respect de l'autorité, de l'individualisme contre le dévouement absolument au groupe, une recherche d'épanouissement personnel contre la fidélité à l'entreprise, etc.
Vive la crise, alors.
De ce point de vue-là, oui, parce que ça se traduit aussi, dans certains secteurs, par une créativité accrue, que ce soit dans les arts, architecture, la mode, le soft power divers et variés, dessins animés, etc. Tous ces gens-là ne sont pas des gens qui étaient formatés pour être en entreprise, et donc ils ont plus d'autonomie. À partir de là, qu'est-ce que ce nouveau gouvernement peut apporter? Alors, je crois que c'est un... Bon, les débuts de ce nouveau gouvernement, du point de vue, justement, du manque de cohérence, peut-être, dans la politique extérieure, des tensions à l'intérieur du cabinet, etc. Mais son programme est intéressant.
Le gouvernement qui est là depuis août 2009.
Voilà, c'est ça, c'est exactement. Récent. Pour la première fois, il voudrait, depuis dans le Japon d'après-guerre, il voudrait centrer la croissance japonaise, non plus la demande extérieure, faisons vite, en disant les exportations, mais sur le marché intérieur. Et d'une part, ça c'est l'aspect économique, et du point de vue social, plus de justice sociale, c'est-à-dire...
Et plus de fraternité, des titres.
Voilà, une politique plus tournée vers les perdants que les gagnants des effets de la mondialisation. Donc moins tournée vers le succès des entreprises que le bien-être de la population. Donc il y a tout un tas de mesures de relance du pouvoir d'achat, une politique non pas nataliste, mais enfin un peu plus vigoureuse au niveau du soutien, parce qu'on a un taux de nuptialité et de natalité qui est extrêmement faible et qui pose un problème majeur. Donc je crois que ce Parti démocrate, je ne sais pas bien quel va être son avenir, parce que
Mais on dit aussi que c'est une bande d'amateurs.
Alors, peut-être au niveau de M. Hatoyama, ce dont il manque peut-être, c'est ce qu'on dit, en tout cas, il manque d'esprit de décision et de volontarisme. En revanche, on a un certain nombre de poids lourds dans ce gouvernement, et surtout... On a autour d'eux un certain nombre de parlementaires, mais aussi de hauts fonctionnaires qui ont quand même des idées. Donc, comme toujours au Japon, ce n'est pas nécessairement le Premier ministre qui fait la politique au quotidien.
Oui, Jean-François Sabourin.
Oui,
alors, il y a une question. Oui,
j'allais ajouter, à condition de ne pas brimer les fonctionnaires, puisque l'un des aspects de la prise du pouvoir de M. Hatoyama Yukio, c'est véritablement de dire que les fonctionnaires doivent obéir aux politiques. Le problème, c'est que ce gouvernement est arrivé, il a été formé grâce au poids énorme d'un homme qui est une bête politique, on va dire, et qui s'est ramassé de l'argent, qui est Ozawa Ichiro. Malheureusement, il est pris dans une série de scandales. Et alors que les élections à la Chambre haute doivent avoir lieu dans 2 mois, le taux de soutien de du gouvernement de M. Hatoyama, il est environ de 20% aujourd'hui. On sait au Japon que lorsqu'un gouvernement passe la barre des 30%, il doit remettre son titre en jeu. Or, ils ne sont au pouvoir que depuis le mois de septembre. Donc là, je suis très inquiet.
Monsieur Sabourin, si on pouvait revenir encore une fois aux questions sociales qui nous préoccupent aujourd'hui, quand on dit qu'aujourd'hui, il y a des gens qui prêchent une sorte de retour à l'éthique traditionnelle, qu'est-ce qu'on entend par là
Mais que les pauvres...
Qui demande à ce qu'on tourne le dos un peu à la culturation par l'Occident, au matérialisme. Oui.
J'ai envie d'exprimer une expression japonaise, c'est « umei ni amanjiru », c'est accepter son sort, que ceux qui ont peu se contentent de ce qu'ils ont. Le problème, c'est que les Japonais ont goûté aussi quand même à la démocratie, et je ne sais pas si c'est quelque chose qui peut durer longtemps. Mais il est vrai qu'ils redécouvrent des œuvres qui étaient écrites dans les années 1910, où véritablement on vantait le plaisir de la pauvreté, et puis de toute la grande poésie japonaise de Basho, par exemple, de Issa, c'est de se contenter de peu, en disant que le bonheur, c'est de se déprendre des choses. Tout ça, c'est très bien, c'est beau. Oui. Après un bon repas, on lit de la poésie japonaise. Mais au quotidien, c'est un peu plus compliqué que cela, je crois.
Claude Meyer.
Oui.
Est-ce qu'on ne risque pas de réveiller le fameux nationalisme japonais? Parce qu'on a vu, il y avait une tentation chez certains intellectuels et même chez l'ancien Premier ministre, chez Shinzo Abe.
Vous avez tout à fait raison.
Oui,
de dire ça,
alors, là, il faut un petit peu peser ces mots. Je dirais, c'est sûr que face, par exemple, au nationalisme chinois, face aux incidents et reproches permanents, bien qu'il y ait eu des excuses répétées. Qu'est-ce que disent les Chinois et certains Coréens du Sud? C'est que le Japon s'est excusé, bien sûr, pour tout ce qui s'est passé dans les années 30, mais il l'a fait du bout des lèvres et en fait, il veut réarmer, etc., etc. Donc face à ça, il y a une espèce de lassitude un petit peu et d'attitude de déni, y compris au niveau de la population japonaise. Et puis, la deuxième chose, c'est que les Japonais ont quand même été extrêmement humiliés par cette longue crise et finalement cette dégringolade de statut et de devenir presque la risée du monde, être incapable de sortir d'une crise qui, à l'origine, était une crise financière comme beaucoup de pays en ont connu. Et l'inertie du pouvoir politique durant les années 90 a fait que c'est devenu une crise extrêmement profonde, structurelle. Donc, il y a un sentiment, c'est vrai, de vouloir recouvrer la dignité nationale, une certaine estime de soi.
Y compris chez les jeunes générations, justement, ceux-là qui ne veulent même plus travailler.
Tout à fait. Mais ça n'est pas à confondre, je pense, avec des franges extrêmes, d'extrême droite, y compris à l'intérieur du Parti libéral-démocrate, qui se pose très sérieusement la question d'un réarmement face aux menaces nord-coréennes et éventuellement face à la menace chinoise. Mais ce qui est intéressant quand on voit les sondages, c'est qu'à chaque fois, enfin c'est pas si fréquent, mais à chaque fois ça pose d'énormes problèmes, qu'un missile nord-coréen survole l'archipel, il est certain que les sentiments de la population deviennent plus attentifs, je dirais, à ces voix de sirène d'extrême droite.
Oui, Jean-François Sabouret.
Oui, je suis tout à fait d'accord avec ce que dit Claude Meyer, c'est-à-dire que si le gouvernement Hatoyama n'arrive pas à réaliser tous les projets d'enrichir les Japonais, de faire en sorte qu'il y ait un marché intérieur bien structuré, fort, qui pourrait fonctionner indépendamment des aléas du monde, de ce qui se passe à l'extérieur.
Oui, mais c'est un marché qui a affaire aussi aux importations chinoises et qui coûte encore moins cher.
En partie,
c'est ça,
oui.
Le problème.
Mais si toutefois les élections ramenaient le Parti libéral-démocrate au pouvoir. De toute façon, le Parti libéral-démocrate, je ne vois pas ce qu'il pourrait faire de très, très, très différent. Et sinon, d'exacerber, comme l'avait fait Koizumi, vous vous souvenez, d'exacerber les sentiments nationalistes du Japon. Alors, le réarmement moral, avant peut-être un autre type de réarmement, je suis toujours un petit peu inquiet de ces choses-là. En parlant avec des Japonais, c'est vrai qu'ils ne le souhaitent pas, des jeunes Japonais, ils ne le souhaitent pas vraiment. Mais vous savez, tout cela peut changer véritablement quand on continue à glisser, à perdre la face. Donc, je ne sais pas jusqu'où ça peut aller. Il faut que les Japonais acceptent leur position, leur positionnement dans la société, à l'endroit où ils sont. Mais je trouve que, par rapport à la France, si on peut dire deux mots sur notre pays, il y a des jeunes Japonais qui essaient de tenter de vivre, ils essaient de tenter de vivre différemment, alors qu'en France, on n'est pas encore à ce niveau-là. Donc, c'est dans 5 ans, 10 ans peut-être, il y a quelque chose qui va émerger. Et puis, il y a de plus en plus de jeunes Japonais qui vont voir ce qui se passe en Corée, par exemple, etc. Mmh. Donc, il y a une conscience commune asiatique qui se développe.
Vous diriez, est-ce que vous diriez qu'après s'être avant tout tourné vers l'Occident, aujourd'hui les Japonais regardent beaucoup plus du côté de l'Asie dans son ensemble?
Incontestablement.
Ça, c'est la grande idée de M. Hatoyama.
Oui, Claude
Meyer. C'est un retour vers l'Asie. Avec, je dirais, quand même un certain romantisme qui, quand même, me surprend un petit peu. Et un peu d'amateurisme en parlant d'une monnaie commune. Ça, c'est vraiment dans 50 ans, peut-être, au mieux.
Mais il faut d'abord sortir de la crise.
Exactement. Mais il est vrai qu'il y a un rapprochement avec, je dirais, il y a une diplomatie asiatique beaucoup plus vigoureuse. Et donc, on va avoir, je pense, un leadership partagé qui va être assez souvent conflictuel entre la Chine et le Japon, avec une intégration asiatique qui va se renforcer de plus en plus.
Je rappelle que vous écoutez France Culture, c'était Place des Peuples. Aujourd'hui, les conséquences de la crise économique au Japon avec Jean-François Sabouret. Il est directeur de recherche au CNRS. Il a plusieurs publications à son actif, dont Besoin de Japon aux éditions du Seuil. C'est un regard sur la société japonaise nourrie de 22 ans d'expérience sur le terrain. Et Claude Meyer, professeur d'économie internationale à Sciences Po, ancien directeur d'une banque au Japon, il vient de publier aux presses de Sciences Chine ou Japon, quel leader pour l'Asie. Attaché d'émission Catherine Madure, prise de son Adrien Roch, réalisation Jean-Christophe Francis. France Culture, il est 16h30, l'heure de la fiction pour les petits et les grands.